Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Le texte de l'Évangile qui nous est proposé à la lecture ce matin, nous le trouvons dans l'Évangile de Luc. Depuis quelque temps, plusieurs textes nous sont proposés dans l'Évangile de Luc. Et nous trouvons au chapitre 9 et les versets 51 à 62. Luc 9, versets 51 à 62. Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Il se tourna vers eux et les rabroua. Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières. » Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Il semble qu'il est intéressant de mettre en relation ces deux courts épisodes de l'Évangile. On va se dire, mais quel est le lien entre les deux? Je pense que si on les considère l'un avec l'autre, ils nous permettent de cerner un peu les contours de ce que doit être un disciple de Jésus-Christ. Et en l'occurrence, de pouvoir les cerner un petit peu par des contre-exemples, ou des mauvais exemples, des exemples à ne pas suivre. D'abord, avec le contre-exemple de l'attitude des disciples dans ce village de Samaritains, lorsqu'ils demandent s'ils peuvent faire descendre le feu du ciel sur ce village inhospitalier. Ensuite, avec plusieurs personnes qui disent vouloir suivre Jésus, mais qui, de façon étonnante, sont presque découragées par Jésus de le faire, simplement parce que Jésus attend des disciples sans concession. Il me semble qu'en mettant en relation ces deux textes, ces deux épisodes, on peut affirmer, ce qu'on essaiera de confirmer dans cette prédication, on peut affirmer qu'on peut être engagé à fond, sans concession, pour Jésus-Christ, sans pour autant être un fanatique. Je dirais même que c'est précisément ce que Jésus attend de nous. Moi, la première partie de cette lecture, le premier petit épisode, évoque pour moi, ça évoque un peu un certain fanatisme. Remettons les choses en situation. Jésus est en marche vers Jérusalem. Et dans ce chemin, il envoie des messagers. On parlait d'anges tout à l'heure. C'est le même mot qui est utilisé. Et ici, sans doute que les anges, entre guillemets, les messagers, sont quelques-uns de ses disciples que Jésus envoie devant lui pour préparer son arrivée dans le village, sans doute pour qu'il puisse trouver un lieu d'accueil pour y passer la nuit, un lieu d'hospitalité. Les disciples, ces messagers, arrivent, demandent sans doute à plusieurs portes du village qui voudrait accueillir Jésus et ses disciples, et ils essuient, semble-t-il, un refus catégorique de tous. Pourquoi ? Parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem. Ça, en fait, c'est la vieille querelle entre les Juifs et les Samaritains au temps de Jésus. C'était un petit peu les frères ennemis qui avaient du mal à se supporter l'un l'autre. Et surtout qui n'avaient pas les mêmes pratiques culturelles, ils n'avaient pas le même lieu de culte. Les Juifs adoraient dans le temple à Jérusalem, les Samaritains, eux, adoraient sur le mont Garizim. Et il y avait cette rivalité entre les deux, d'ailleurs, qui ressort dans le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine, lorsque la femme lui dit, mais où est-ce que nous devons adorer ? Et c'est là que Jésus dit, l'important, ce n'est pas le lieu où on adore, mais d'adorer en esprit et en vérité. Mais il y avait cette rivalité entre les Juifs et les Samaritains, et ce village de Samaritains refuse d'accueillir Jésus parce qu'il se rendait à Jérusalem, parce qu'il allait au temple. Alors évidemment, leur attitude est regrettable. Évidemment, on aurait pu souhaiter qu'ils accueillent Jésus. Il y a presque un devoir d'hospitalité qui est aussi culturel, une coutume dans cette région. Ils ne l'ont pas fait. C'est regrettable. Mais de là à se prendre pour le prophète Élie et demander à Dieu de faire descendre le feu du ciel sur ce village inhospitalier, il y a quand même un grand pas. D'ailleurs, je me demande si les disciples auraient proposé la même chose à Jésus s'ils n'avaient pas été dans un village de Samarie, mais un village de Judée. J'en suis pas sûr du tout. Probablement qu'il y avait cette rivalité là aussi, du côté des disciples de Jésus, qui eux étaient juifs, bien sûr. En réponse à cette proposition étonnante, le texte de l'Évangile est très sobre. Jésus se tourna vers eux et les reprit, et les rabroua. J'imagine ce qui a dû passer par le regard de Jésus. Jésus se tourna vers eux et les rabroua. Il a dû y avoir des éclairs qui sont sortis des yeux de Jésus. D'ailleurs, certains manuscrits, alors c'est pas peut-être que vous l'avez dans votre Bible, certains manuscrits ajoutent ces paroles dans la bouche de Jésus, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Bon, soulignant bien le désaccord radical de Jésus à l'égard de cette proposition insensée de ses disciples. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils vont dans un autre village, c'est tout. C'est comme ça que se termine l'épisode. C'est quand même étonnant de se dire que les disciples, eux, étaient prêts à faire descendre le feu du ciel sur un village inhospitalier. Et Jésus dit, ben non, on va aller au village prochain. Et là, ils ont trouvé de la place, probablement. C'est la réaction des disciples est disproportionnée de façon étonnante. Moi, je trouve qu'ici, les disciples de Jésus apparaissent un peu comme des fanatiques. Ils sont prêts à tout, même détruire et tuer, pour lutter contre ceux qui leur résistent. Si ça, c'est pas du fanatisme. Mais Jésus ici dit non au fanatisme. Reconnaissons que dans l'histoire de l'Église, les différentes formes de fanatisme ont fait énormément de mal. On pourrait se demander d'ailleurs, ou plus que se demander, n'y a-t-il pas encore des fanatiques aujourd'hui, y compris chez les chrétiens, y compris chez les évangéliques? N'y a-t-il pas des formes de fanatisme aujourd'hui encore, qui pourtant sont en contradiction avec l'esprit de l'Évangile? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas rester vigilant face au risque qui peut exister de travestissement de l'évangile, d'hérésie, où il faut rester vigilant aussi, bien sûr. Mais la mission première d'un témoin du Christ, ce n'est pas de lutter contre, c'est de témoigner pour. D'abord témoigner pour, avant de lutter contre. D'ailleurs, la référence à Élie, parce qu'une référence à Élie est évidente, hein, la parole des disciples, c'est une référence à ce que Élie a fait au prophète de Baal. Elle est assez intéressante parce que quand on y pense un petit peu, quand on réfléchit à cet épisode d'Élie, on sait que dans ce contexte-là, alors, après l'épisode du feu tombé du ciel, hein, mais c'est dans ce contexte-là, Élie se trompait. Il se trompait parce qu'il croyait, il pensait être resté le seul fidèle, qu'il n'y en avait plus d'autres. Il était le dernier. Et le Seigneur lui montre que non, il y en a d'autres encore. Il y a encore d'autres qui sont restés fidèles dans le peuple. Élie, lui, se croyait seul, resté fidèle, seul contre tous les idolâtres et tous les adorateurs de Baal. Et je me demande si en se prenant pour Élie, les disciples ici se croyaient peut-être aussi les seuls fidèles dignes de ce nom. J'ai l'impression que peut-être que le choix de Jésus leur était un peu monté à la tête. Et d'ailleurs, l'épisode qui précède ce que nous avons lu, on ne l'a pas lu, qui est très court aussi, démontre un peu cela. Puisque dans l'épisode précédent, les disciples viennent dire à Jésus, « Nous avons interdit, empêché quelqu'un de chasser les démons en ton nom. Pourquoi ?» Parce qu'il ne faisait pas partie de notre groupe. C'est un peu sectaire, non, comme attitude. Non pas parce qu'il ne le faisait pas bien, mais c'est parce qu'il ne faisait pas partie de notre groupe. Et de fait, fanatisme et repli sectaire vont souvent de pair. L'un et l'autre, pourtant, sont radicalement opposés aux valeurs de l'Évangile. Jamais, jamais, le Seigneur ne les cautionnerait. Alors restons vigilants pour que nous ne soyons jamais tentés par ces formes de sectarisme ou de fanatisme. Mais refuser le fanatisme et le sectarisme ne signifie pas pour autant que nous devons être des disciples au rabais, avec un engagement mou, sans conviction. Au contraire, nous sommes appelés à être des disciples à fond, ou pas du tout. C'est justement cela dont témoigne le deuxième épisode. Et je pense qu'il est intéressant de les avoir l'un à côté de l'autre, parce que l'un contrebalance l'autre pour nous donner une vision juste et équilibrée des choses. Ces échanges verbaux entre Jésus et des personnes qui, de façon différente peut-être, voulaient suivre Jésus. Il y a d'abord quelqu'un qui spontanément va au-devant de Jésus et lui dit « Je veux te suivre partout où tu iras ». Et c'est vrai qu'à la lecture de la réponse de Jésus, on a presque l'impression que Jésus va le décourager de le faire. En tout cas, il souligne que s'il veut choisir de le suivre, il ne choisit pas la vie facile. C'est loin d'être une vie de grand luxe qu'il choisit, mais une vie itinérante, sans confort. Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Tu veux me suivre partout ? Ce sera la même chose pour toi. T'es toujours sûr de vouloir me suivre ? Et puis, ensuite, Jésus va appeler deux personnes successivement à le suivre. Là, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui leur dit « Suis-moi ». Et les deux personnes vont demander un délai à Jésus. Là aussi, ce qui est surprenant, je trouve, c'est que les raisons qu'ils donnent, moi je les trouve assez justifiées. Enfin, en tout cas, en apparence, ça ne ressemble pas à des prétextes, hein. Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Laisse-moi d'abord aller prendre congé des miens. Bon, ça paraît assez légitime. Jésus, lui, n'entend pas de cette oreille, puisqu'il leur dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ou alors « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Est-ce qu'il n'en demande pas un peu trop, là, quand même, Jésus ? Alors, je suis d'accord qu'on ne connaît pas les circonstances précises, le contexte particulier de ces deux personnes qui demandent à Jésus ce délai supplémentaire. Est-ce que c'était une vraie raison? Est-ce que c'était un prétexte? Est-ce que c'était un recul? On ne sait pas. C'est vrai que là, on manque d'informations pour avoir quelque chose de tout à fait ferme et clair. Ce qui est certain, ce que Jésus souligne, ce que cet épisode souligne, c'est que Jésus attend de ses disciples un engagement sans faille, une consécration absolue, sans concession, aujourd'hui et maintenant. S'engager comme disciple de Jésus, c'est du sérieux. Il vaut mieux ne pas s'engager du tout que de s'engager à moitié, avec le cœur partagé. Et si ces dialogues et ces réponses de Jésus nous paraissent surprenantes, peut-être même un peu choquantes, je ne sais pas, c'est sans doute pas un hasard. Il ne faut pas essayer de lisser les paroles de l'Évangile qui nous dérangent un petit peu. Elles sont là pour ça aussi, pour nous titiller un petit peu et nous interroger sur le sérieux ou non de notre engagement en tant que disciple du Christ. Parce que Jésus a-t-il changé d'exigence aujourd'hui? Fondamentalement, je ne pense pas. Aujourd'hui encore, il nous invite à nous engager à fond, à sa suite, sans concession pour lui. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, cet engagement à fond, sans concession? Je parlerai alors en m'éloignant un petit peu du texte, bien sûr, en réfléchissant plus globalement à cette notion d'engagement, je proposerai trois éléments. L'importance de prendre une décision claire pour le Christ. L'importance de cet engagement sans concession dans une réponse personnelle, individuelle, à l'appel de l'Évangile qui retentit toujours, aujourd'hui, comme au premier jour. Viens, suis-moi. Un appel à la conversion, au changement de vie, au changement radical, à la repentance en reconnaissant notre faute et nos péchés, à la foi en plaçant notre confiance en celui qui nous appelle, en attendant de lui le pardon, la grâce et l'espérance du salut qu'il nous offre, faire le choix, clairement, personnellement, le choix de la foi. Et puis, il y a aussi l'importance, je crois, de poser, il faudra changer les piles, l'importance de poser des signes dans sa vie chrétienne. Je pense que c'est vraiment important. On en a eu un double exemple dimanche dernier, avec les deux baptêmes auxquels nous avons assisté. Et c'est justement le rôle du baptême et de la scène que nous allons célébrer tout à l'heure, d'être ces signes que l'on pose dans notre engagement de disciple du Christ. Et je pense que c'est une erreur de les négliger ou de relativiser leur importance. Alors oui, bien sûr, ce qui compte, c'est la démarche de foi personnelle. Ce n'est ni le baptême ni la scène qui sauve. Mais si Jésus l'a institué l'un et l'autre, c'est pas un hasard quand même. C'est pour nous aider à poser dans notre vie d'engagement avec le Christ des signes qui comptent, des jalons auxquels on peut se référer. Et puis, il s'agit aussi, il s'agit aussi d'assumer au quotidien des choix de vie clairs conformes à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur. Sans tomber, j'ai coutume de le dire, dans un légalisme strict d'obéissance, simplement servile à une liste d'obligations et d'interdits, c'est pas ça la question. Mais de nous efforcer, si nous nous sommes engagés à la suite du Christ, nous efforcer de placer notre vie tout entière, tous les domaines de notre vie, à la lumière de l'Écriture. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend, que nous la lisions pour nous mettre à sa lumière, d'exposer notre vie au regard de Dieu, dans la prière. De s'efforcer d'agir en disciple du Christ et pas simplement en croyant incognito. Il me semble que ces trois choses, on pourra en rajouter d'autres, nous donnent des pistes en tout cas sur ce que constitue le fait aujourd'hui de s'engager à fond et pas à moitié pour le Christ. Prendre une décision claire, poser des signes dans sa vie et assumer au quotidien des choix clairs et fermement établis sur la parole du Seigneur. Alors simplement en conclusion, tout est question d'équilibre. Et ces deux épisodes contrastés de l'Évangile nous invitent, je crois, à cette recherche d'équilibre. Par la volonté d'un engagement sans concession, certains deviennent des fanatiques. Et le fanatisme conduit au sectarisme, à la haine, parfois même à la violence. Mais par crainte du fanatisme, d'autres se contentent d'un engagement au rabais, avec le cœur partagé, ce qui conduit à une vie chrétienne fade, sans saveur, un témoignage quasi inexistant, et la plupart du temps, une routine spirituelle qui s'installe, qui endort, qui ennuie. L'équilibre, il est dans le fait de s'engager à fond, sans concession pour Jésus-Christ, sans pour autant être un fanatique. Il me semble que c'est à cela que ce texte nous invite. C'est cela que Jésus attend de nous aujourd'hui encore. Amen.